8 novembre 1988, Londres. La ville est en pleine effervescence. Demain, on célèbre à la fois l'anniversaire du prince de Galles et le Lord Mayor's Show, une importante manifestation publique, l'une des fêtes les plus prisées de la ville, avec un grand défilé composé de musiciens, de danseurs et d'acrobates. Mais Mary Jane Kelly n'a pas la tête à ça. Elle a d'autres préoccupations pour le moment. Mary Jane est une jeune fille de 24 ans. Dans son quartier, tout le monde l'apprécie. Elle est considérée comme aimable et gentille. Mary Jane est très jolie. Un visage au teint frais, des cheveux brun clair et des reflets roux l'été. Elle a une silhouette encore juvénile. Ses amis l'appellent affectueusement « Black Mary » parce qu'elle est presque toujours habillée en noir. Elle est irlandaise et catholique, comme son père, un ouvrier métallurgiste. La vie de Mary Jane a bien débuté. À 16 ans, elle épouse un jeune homme dont elle est très amoureuse, un mineur, Davis. Mais leur romance est de courte durée. Lors de leur troisième année de mariage, Davis meurt dans l'explosion de la mine dans laquelle il travaille. La misérable pension qu'elle doit toucher en tant que veuve n'arrive qu'un an et demi après le décès de son mari. Alors, pour payer le loyer de sa modeste chambre, Mary Jane se prostitue. D'abord occasionnellement, puis de plus en plus souvent. Elle se constitue rapidement une clientèle de bourgeois aisés. Il faut dire qu'à cette époque, les filles de joie sont surtout des femmes mûres, ressemblant plus à des clochardes plutôt que de séduisantes courtisanes. Mary Jane, elle, est jeune et belle. C'est à cette époque-là qu'elle emménage au 13 Miller's Court. La chambre est petite, rudimentaire, mais relativement propre. Cela lui suffit. De toute façon, elle n'a pas les moyens de s'offrir davantage. Ce soir du 8 novembre, l'air est froid et humide. Le célèbre brouillard londonien s'insinue petit à petit dans toutes les rues, comme chaque soir. Il est un peu plus de 20 heures, et en cet automne, il fait déjà nuit noire depuis bien longtemps. Mary Jane est fatiguée. Elle aimerait rester dans sa petite chambre, se reposer, mais elle doit travailler. Il lui faut rapidement trouver de l'argent. Elle doit 5 semaines de loyer à son propriétaire. Assise, les yeux dans le vague, elle hésite un moment, se lève de son lit, regarde par la fenêtre et frissonne à l'idée d'avoir à sortir dans la nuit et le froid. Mais elle n'a pas vraiment le choix. Elle enfile son manteau noir et sort de chez elle à la recherche d'un client. Où se rend-elle alors? Les témoignages divergent. Certains disent l'avoir vue au Ten Bells, d'autres au Britannia, deux pubs des environs. Ce qui est certain, c'est qu'à 23h45, une voisine, prostituée elle aussi, aperçoit Mary Jane sur Commercial Street. Elle est ivre et marche en compagnie d'un homme corpulent d'environ 35 ans, moustachu, pauvrement vêtu d'un long manteau et coiffé d'un chapeau rond. Il a une pinte de bière à la main. Les deux femmes se disent bonsoir, puis Mary Jane rentre chez elle accompagnée de l'homme. C'est la dernière fois qu'un témoin a vu Mary Jane Kelly vivant. Rentrant chez elle au bras de son client, elle ne peut alors imaginer qu'elle va devenir tristement célèbre dans le monde entier, que plus d'un siècle plus tard, on parlera encore d'elle. Mary Jane Kelly va dans quelques minutes devenir la 5e et ultime victime du plus célèbre serial killer de l'histoire.
Podcast Story.
Le lendemain matin, un peu avant 11h, Thomas Boyer, employé du propriétaire de la chambre de Mary Jane, vient pour récupérer l'argent du loyer. Il frappe vigoureusement à la porte, pas de réponse. Il recommence en vain. Il fait le tour de la cour jusqu'à la fenêtre de la chambre dont le carreau est cassé. Ce qu'il voit est inconcevable, inimaginable, une vision purement cauchemardesque. Du sang partout. Tous les murs en sont recouverts, le sol aussi. Mary Jane est allongée sur son lit, le visage tourné vers la gauche, son bras gauche sur son ventre et l'autre tendu le long du corps, avec les doigts serrés. Sa gorge est tranchée. Son corps et son visage sont couverts de plaies, de coups de couteau. Mary Jane a été littéralement éviscérée, dépecée. Lors de l'autopsie, le médecin légiste Thomas Bond constate la disparition d'un organe vital et riche en symboles, son cœur. Il écrit dans son compte-rendu que le décès a eu lieu vers 2h du matin. Le médecin est sidéré par les sévices infligés à la victime. Il n'a jamais vu ça. Il décide de mener une enquête parallèle à celle de la police pour comprendre une telle sauvagerie. Il étudie chaque blessure, recherche des indices, tente de reconstituer l'ordre des coups, la position de l'homme lors de ses attaques, sa corpulence. Mais aussi ses intentions, sa motivation à pratiquer de telles horreurs. Le légiste Thomas Bond devient le tout premier profiler de l'histoire. Quelques jours plus tard, il communique à la police ses conclusions. Il élabore alors deux nouveaux concepts de profil psychologique de criminel. Tout d'abord, la notion de criminel sexuel. Selon lui, le bourreau doit être un homme en apparence normale, socialement bien intégré, mais souffrant de graves troubles mentaux. Il utilise ensuite le terme de serial killer, tueur en série, en le définissant ainsi. Il s'agit d'un meurtrier psychopathe, animé de pulsions sexuelles, engagé dans un jeu macabre avec les médias et la société. Avant Mary Jane Kelly, quatre autres femmes ont été sauvagement assassinées de la sorte dans ce même quartier de Londres. Tout débute à la fin de l'été, le 31 août 1888. Marianne Nichols, surnommée Polly, 43 ans, mariée, 5 enfants, est retrouvée égorgée et éventrée. Le 8 septembre, Annie Chapman, 47 ans, mariée, est retrouvée elle aussi égorgée et éventrée. Rapidement, le quartier où les meurtres ont lieu, Whitechapel, suscite les pires craintes. Les rues se vident de ces noctambules habituellement si nombreux. Le 27 septembre, une lettre est envoyée aux journaux. Elle est écrite à l'encre rouge parce que, précise l'auteur, le sang avec lequel il voulait l'écrire a malheureusement séché. Il revendique les deux premiers meurtres, ceux de Marianne Nichols et de Annie Chapman, et annonce qu'il y en aura bientôt d'autres. La lettre est signée de trois mots, Jack the Ripper, Jack l'éventreur. Trois jours plus tard, le 30 septembre, un nouveau cadavre est retrouvé. Elizabeth Stride, 44 ans. Elle n'a pas été mutilée, mais étranglée. Le tueur semble avoir été surpris, il n'a pas pu terminer son rituel. 45 minutes plus tard, il s'en prend à une autre femme, Catherine Eddowes, 46 ans. Cette fois, la victime est bel et bien éventrée. La population s'affole. La police piétine, aucune piste sérieuse n'apparaît. À l'époque, les tests ADN n'existent pas et l'analyse des empreintes digitales n'en est qu'à un stade expérimental. Seules des déclarations de témoins peuvent faire avancer l'enquête. Alors, la police convoque plus de 2000 personnes pour les interroger. On surveille 300 suspects nuit et jour, 80 sont arrêtés, mais tous seront relâchés. Pas de preuves, pas le moindre indice. Les journaux s'emparent de l'affaire, beaucoup critiquent la police. Certains s'en moquent, leur tirage explose. The Star, quotidien qui n'a qu'une année d'existence, multiplie par 10 ses ventes, dépassant les 200 000 exemplaires. Les titres les plus prestigieux suivent l'affaire. Bientôt, ce sont les journaux du monde entier qui relatent les crimes de Jack l'Éventreur. On voit apparaître pour la première fois des journalistes d'investigation qui interrogent des témoins, y compris certains ignorés par la police, dessinent des schémas de scènes de crime, élaborent des stratégies pour confondre le criminel. Parler de Jack l'Éventreur revient à parler d'un homme que l'on ne connaît pas, dont on ne sait finalement rien. Le seul moyen pour tenter de cerner le personnage, d'essayer de comprendre sa personnalité, est de s'intéresser à ses victimes et à la manière dont il les a assassinées. Ce sont toutes des femmes, pauvres, prostituées. À l'exception d'Elizabeth Stride, elles ont toutes été sauvagement mutilées. L'époque, le contexte sont aussi essentiels pour aborder le profil du tueur. Les faits se déroulent en 1888, au cœur de l'ère victorienne. Ces années sont celles de la révolution industrielle britannique. L'Empire est la première puissance économique du monde. Londres, la métropole la plus peuplée de la planète, avec plus de 5 millions d'habitants. Les monuments les plus connus de la ville datent de cette période, à l'image de Big Ben, inauguré en 1859. La ville détient un nombre impressionnant et inédit d'usines. Résultat, une fumée noire, incessante et malodorante couvre une partie de Londres, la partie est, l'East End. C'est logiquement ici que les pauvres vivent, ou plutôt survivent. Le quartier de Whitechapel, où vivaient Mary Jane, en fait partie. Le mélange de fumées industrielles et d'humidité de la Tamise crée le célèbre « fog ». Ce fameux brouillard sulfureux, anxiogène et dense. Jack en fait son complice. Ils sont pour toujours indissociables, tous deux demeurant mystérieux et impalpables. À l'ouest, c'est une autre histoire. L'air est sain, l'atmosphère générale bien plus respirable. Les bourgeois ont la belle vie. Ces quartiers riches arborent leurs immeubles chics, leurs élégants hôtels et théâtres, et leurs immenses magasins aux vitrines de luxe. Une ville, deux univers qui s'opposent, qui s'observent en secret, avec un mélange d'envie et de mépris. Tel un individu qui aurait deux personnalités antinomiques. D'un côté, le bien, le beau, le respectable que l'on affiche, que l'on revendique fièrement. De l'autre, la partie sombre, le mal que l'on cache, le sale, le mauvais dont on a honte. Une ville qui ressemble finalement étrangement à son meurtrier. Bien sûr, l'insécurité est quotidienne dans la partie pauvre de la ville. Ces quartiers populaires sont gangrénés par la misère, l'alcoolisme et la violence. Mais jamais une telle barbarie. D'autant plus que ces crimes sont incompréhensibles pour la police, car sans mobile. Habituellement, on tue pour voler des vêtements, une paire de chaussures ou quelques pièces de monnaie. Jack l'éventreur, lui, ne vole que la vie de ses victimes. Certaines sont même retrouvées avec les quelques pièces qu'elles ont gagnées durant la journée. Ces crimes sordides et d'un genre nouveau perturbent l'établissement londonien. La morale victorienne de l'époque est puritaine, limite intégriste. L'hypocrisie règne. Beaucoup de bourgeois mènent une vie conjugale des plus vertueuses et respectables, mais une fois la nuit tombée, ils recherchent le frisson de l'interdit, la fantaisie sexuelle. Pour cela, direction les bas-fonds de la ville, l'East End. Mais de cela, personne ne parle. Ni des relations sexuelles hors mariage, des rapports tarifés, et encore moins d'homosexualité. C'est dans cette atmosphère lourde que l'affaire de Jack l'Éventreur devient bien plus qu'un simple fait divers. La prostitution devient un sujet de conversation dans les salons mondains. La police parle de 10 000 prostituées. Les journaux estiment la réalité à plus de 100 000. George Bernard Shaw, dramaturge, essayiste et provocateur, met ironiquement en avant l'utilité de Jack l'Éventreur qui met en lumière la misère des quartiers les plus pauvres. Il écrit « Jack l'Éventreur est un réformateur social de génie ». Charles Booth, pionnier de la sociologie moderne, réalise une carte destinée à aider les pouvoirs publics à prendre la mesure du phénomène. Il est le premier à fournir des données chiffrées des conditions de vie déplorables dans l'East End. Il invente la notion de « poverty line », seuil de pauvreté. Voilà donc pour le contexte historique. Venons-en maintenant à la plus cruciale des questions de cette affaire. Qui est Jack l'Éventreur ? Les Londoniens sont convaincus qu'il s'agit d'un étranger. Et dans ce quartier de Whitechapel, les étrangers, ce sont les Juifs. Des graffitis antisémites apparaissent de plus en plus nombreux sur les murs des ruelles. Mais des journalistes proposent d'autres pistes, de très nombreuses. Certaines semblent crédibles un moment, jusqu'à ce que la police démente les hypothèses. Le long couteau utilisé par le meurtrier fait dire qu'il s'agit d'un boucher ou d'un chirurgien habitué à manier le scalpel. On évoque le nom du prince Albert Victor. On suspecte William Gull, le médecin de la reine. Le nom de Thomas Cream, un célèbre assassin, circule. Des lettres envoyées à la police dénoncent John Williams, le gynécologue de la princesse Béatrice. On parle un moment d'un certain Aaron Kominski, un juif polonais souffrant de troubles mentaux. Une thèse défend l'idée d'une conjuration maçonnique. Il y a aussi l'histoire d'un médecin tueur qui aurait voulu venger son fils mort de la syphilis qu'il avait contracté en couchant avec une prostituée. La paranoïa gagne toute la société. On suspecte un voisin, un proche, un mari. Et si les crimes étaient commis par plusieurs hommes ? Ou pourquoi pas par une femme ? On évoque même qu'un gorille échappé d'un zoo serait le terrible meurtrier. L'enquête dure des années. Les policiers imaginent toutes les stratégies pour confondre le criminel. Certains vont jusqu'à se déguiser en femme et se mêlent aux prostituées en espérant être abordés par le tueur. Phénomène inédit, des milliers de lettres arrivent à la police. Tout le monde donne son avis. C'est un élément sociologiquement intéressant, le résultat d'une mentalité qui change. La réforme électorale de 1884 a ouvert le droit de vote à de nouvelles catégories d'électeurs. Le peuple veut désormais avoir son mot à dire, être écouté. De nombreuses lettres sont signées par Jack l'Éventreur, mais les écritures ne correspondent pas. La police est définitivement perdue. Elle finit par se demander si la première lettre en encre rouge n'aurait pas été écrite par un journaliste désireux de rendre l'affaire encore plus effrayante et populaire. Finalement, l'enquête est close officiellement en 1892. Plus de 100 personnes ont été sérieusement suspectées, mais les preuves manquent. Jack l'Éventreur ne sera jamais arrêté. La plus grande énigme policière de tous les temps se solde par un échec. Pourtant, de récentes découvertes scientifiques semblent confirmer que l'un des suspects cités est bien Jack l'Éventreur. Nous y reviendrons dans un instant. Un autre mystère, et non des moindres, demeure dans cette exceptionnelle histoire. Pourquoi Jack l'Éventreur a-t-il autant passionné les foules? Comment expliquer les romans, les films qui se sont inspirés de lui? Il y a à cela plusieurs explications. Tout d'abord, il a su mettre en scène sa monstruosité. Il a constamment théâtralisé ses crimes en les médiatisant, en les annonçant dans la presse avant de les commettre. Il est aussi probable que sa barbarie soit entrée en résonance avec les démons de l'époque. L'Empire britannique revendique une moralité exemplaire. Certains notables proclament qu'il faut laisser faire le meurtrier, qu'il va ainsi faire disparaître le mal incarné par les prostituées. L'Éventreur a révélé l'envers obscur de la nature humaine. Ses crimes ont soulevé cette terrible interrogation: la perversité des bourgeois nourrit-elle l'immoralité des pauvres? Si ce tueur de femmes est devenu un mythe, c'est aussi parce que, suscitant la peur, il excita les esprits. Il jeta un trouble morbide sur les profondeurs de l'âme, à l'époque où l'on commençait tout juste à se familiariser avec le concept de pulsion sexuelle inconsciente. Le médecin et philosophe Ernst Plattner développe sa théorie du conscient et du subconscient. 2 ans avant les meurtres, Robert Louis Stevenson écrit « L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde ». On y découvre qu'une personne respectable peut se livrer à des actes monstrueux. Stevenson est visionnaire. Le succès du roman se prolonge au théâtre, où la pièce est encore jouée au moment des crimes. Certains pensent que l'acteur Richard Mansfield, qui incarne Jekyll et Hyde, est un possible suspect. Pour calmer les esprits, on arrête les représentations. L'Éventreur inspire tout autant qu'il répulse. Bram Stoker fait naître son sanguinaire Dracula en pleine affaire de Jack l'Éventreur. Jack est un monstre d'un nouveau genre, le fruit gangréné de son époque. Accoucheur de tourments de cette nouvelle société, il en devient le macabre emblème. Des milliers de personnes se sont intéressées à l'affaire à travers le monde, ont tenté de percer le mystère de son identité. Une spécialité a même été inventée, la ripérologie. Ceux qui la pratiquent, les ripérologues, étudient ces meurtres pour tenter d'en découvrir son auteur. L'écrivaine à succès Patricia Cornwell fait partie de ces apprentis chercheurs. Elle a dépensé 4 millions de dollars pour enquêter. Elle défend depuis l'idée que le tueur est en réalité le peintre Walter Sickert. La découverte la plus récente date du mois de mars 2019. Le Figaro publie un article titré « 130 ans après ». On sait enfin qui était Jack l'Éventreur. Le journal révèle qu'il s'agirait d'Aaron Kominski, barbier et émigré polonais, âgé de 23 ans au moment des faits. Ce sont 2 scientifiques britanniques, Jari Llewellyn de l'Université de Liverpool et David Miller de l'Université de Leeds, qui sont arrivés à cette conclusion après 12 ans de recherche. Pour établir l'identité du tueur, ils se sont basés sur le châle retrouvé par les enquêteurs dans la nuit du 30 septembre 1888, sur le corps de Catherine Eddowes, la 4e victime de Jack l'Éventreur. Ils ont procédé à des tests génétiques sur les descendants vivants connus d'Aaron Kominski. La comparaison ADN a matché. Cependant, certains scientifiques contestent ces résultats, doutant de l'authenticité du châle qui aurait été selon eux fabriqué dans les années 1900, soit 12 ans après le crime. De plus, l'analyse génétique ne porte pas sur l'ADN nucléaire, mais mitochondrial, un ADN qui permet d'éliminer des suspects, mais non d'en isoler un seul en particulier, vu que 40% de la population le partage. Cet ADN pourrait donc correspondre à plus de 400 000 autres personnes en 1888. Retour à la case départ. La seule certitude que l'on a concernant Jack l'Éventreur, c'est qu'il n'est pas encore mort. Il est toujours bien vivant dans notre imaginaire et nos fantasmes. Juillet 2015, au cœur du quartier de Whitechapel, ouvre un nouveau lieu culturel et touristique, le musée Jack l'Éventreur. Une nouvelle attraction dont certains londoniens se sont offusqués, reprochant au musée d'utiliser la violence faite aux femmes pour gagner de l'argent. La réponse du directeur du musée ne s'est pas fait attendre. C'est au contraire pour rendre hommage aux femmes miséreuses de l'Est de Londres que le musée a été créé. Pourtant, quand on le visite, on constate qu'il évoque bien plus le tueur que ses victimes. On y découvre entre autres le salon supposé du tueur, une reconstitution d'un poste de police de l'époque et une chambre à l'image de celle dans laquelle vivaient les victimes. Au sous-sol, une morgue façon 19e siècle avec une table d'examen ensanglantée et des photos d'autopsie des victimes. Autre preuve que le tueur démoniaque suscite toujours l'intérêt, des excursions sont proposées aux touristes avides de sensations fortes. L'organisateur s'engage sur une visite guidée par un professionnel vous garantit une expérience frissonnante. Vous sentirez votre colonne vertébrale fourmiller en vous promenant sur les sites des meurtres de Jack l'Éventreur. Délicieux programme. Si Jack l'Éventreur est symptomatique de l'époque qu'il a créée, la fascination morbide qu'il suscite aujourd'hui encore est aussi révélatrice de notre société actuelle. Dans l'une des lettres identifiées qu'il envoya à la police, on peut lire cette phrase d'une troublante lucidité. « Un jour, les hommes se souviendront et comprendront que j'ai donné naissance au XXe siècle. »
Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.
Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.